Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Et vous écoutez France Culture. Les plus grands ennemis de la mémoire du cinéma, ce sont l'eau et le feu. René Château. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en pleine ébriété cinéphilique et dilection pour les cinéastes hors normes ce dimanche. Mauvais genre qui vous dira en effet le plus grand bien de trois sorties vidéo récentes. L'inconnu de Chandigore du cinéaste suisse Jean-Louis Roy, une édition Carlotta. Massacre pour une orgie de Jean-Pierre Bastide sorti au Chat qui fume, de même que Les menottes rouges de Yukio Noda. Mais qu'a donc fumé le chat? En tout cas, trois films pour vous occuper sainement avant la conférence de Carême, vêpres ou la messe du soir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre cinéma, mauvais genre vidéo en ce dimanche avec donc des films tout à fait exceptionnels puisque c'est sûrement la première fois qu'ils reçoivent à la fois une sortie éditoriale et des traitements équivalents. Je répète les titres, L'inconnu de Chandigore, Massacre pour une orgie et Les menottes rouges. Pour évoquer toutes ces riches bobines, je serai avec Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Qui a une riche Bonjour. Actualité, comme les bobines.
C'est-à-dire que là, il est encore temps d'acheter le numéro de Positif avec un ensemble Michael Mann.
Ah oui, et avec très bel article de Jean-Baptiste Toré, bien connu de nos services.
Et un entretien de 7 pages avec Michael Mann. Plus son chef-op, Eric Messerschmitt. Donc, évidemment, malheureusement, on ne peut pas avoir Ferrari en salle. Mais en attendant, on a fait le travail parce que c'est un film qui marquera l'histoire du cinéma et vraiment les amateurs de Michael Mann se doivent de voir ce film.
Voilà qui est dit. Bonjour Fausto Fazulo.
Bonjour. Bah moi j'ai toujours pas vu Ferrari, faut que je le regarde, mais c'est vrai que j'avais un peu un reculon sur ces films sur les plateformes en fait.
Mais non, mais c'est pas un film de plateforme, c'est un film fait et après il le vend à la plateforme parce que
j'entends bien, mais là aujourd'hui le spectateur français ne peut le voir que sur sa télévision et ça m'embête un peu à vrai dire de découvrir le dernier Michael Mann sur mon écran de télévision. Donc
voilà. J'annonce qu'il n'y aura pas de DVD Blu-ray en France.
Formidable. Quelle bonne nouvelle.
Qu'est-ce qu'on
Merci Philippe.
Dernier numéro. Il y a des pays voisins.
Dernier c'est numéro vrai. D'Atome.
Le dernier qui est pas en cours de bouclage là en fait actuellement.
Et l'avant-dernier alors.
Voilà, l'avant-dernier une consacrée à Shinichi Sakamoto, il y a sa revisite de Dracula.
Voilà. Je l'ai lu et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un aspect du manga qui n'est pas forcément le plus mis en avant. Et là, c'est vraiment très bien. On en reparlera d'ailleurs dans les temps à venir. Bonjour Maître Bire.
Bonjour François.
Quoi de neuf?
Toujours des recherches ardues.
Oui, on ne dira pas lesquelles, puisque ce sont des recherches qui s'épanouiront dans un livre
sur lequel
on ne dira rien non plus.
Non, je suis superstitieux comme plein de gens, oui.
Des recherches ardues avec un H ou pas?
Avec c'est un H. Non, c'est fini toutes
c'est
ces
fini
recherches.
C'est fini tout ça.
Là, c'est d'autres.
Voilà, Christophe Pinceau ardu sans H. Les temps changent, l'histoire évolue et les meilleurs d'entre nous nous quittent comme par hasard, mais non pas par hasard, puisque c'est un départ récent. René Château.
Hello?
He's gonna kill you.
René Château, à qui l'on doit quasiment tout, Monsieur Bire, en tout cas la découverte aussi bien de films méconnus, le mot est faible, des années 30, que Bruce Lee, Massacre à la tronçonneuse.
Oui, c'est un parcours extraordinaire. La phrase en exergue est extraite de son dernier entretien qui avait été publié dans un numéro de Mad Movies en 2021. l'eau et le feu, ennemi mortel de la mémoire du cinéma. Et René Château, en fait, c'est difficile de le résumer parce qu'on a l'impression qu'il a eu de multiples vies, mais avec un dénominateur fort qui est le cinéma. Ça a toujours été sa passion. Il était né en 1939 au Mans. Il a débuté, ensuite, bon, il a suivi sa mère dans la région parisienne, mère divorcée. Et là, il a eu une vie assez difficile d'ouvrier. Il a été carreleur pendant presque une dizaine d'années. Un métier l'indifférait complètement. Et dès l'âge de 20 ans, il se lance dans la publication d'une revue. En 1960, il crée La Méthode. La Méthode qui est un clin d'œil à la méthode Stanislavski, qui a donné naissance à l'Actor Studio.
Il était fan de James Dean.
Parce que voilà, il était effectivement fan de James Dean, de Montgomery Clift, de Marlon Brando. Il faut dire donc que c'est par les acteurs qu'il a été fasciné très très vite par le cinéma. Et ensuite, dans toute sa carrière, on retrouve cette obsession du star system. Mais bon, pour ne pas tout de suite brûler les étapes, on peut dire qu'après La Méthode, parmi les grandes dates à signaler, il y a son entrée chez Philippe Aki dans Lui, où il est alors le spécialiste des starlettes, des playmates qui sont photographiés. C'est lui qui les choisit. C'est comme ça qu'il rentre d'ailleurs, qu'il fait connaissance avec des gens du cinéma qui cherchent des comédiennes pour des scènes déshabillées. C'est comme ça qu'il se retrouve sur le tournage de Pierrot le Fou, de Godard, et qu'il rencontre enfin quelqu'un qu'il avait remarqué dans À bout de souffle, Jean-Paul Belmondo. Après, il y a aussi... il devient attaché de presse. Par exemple, son premier film d'attaché de presse, c'est Joe et Caligula, de José Benazera.
Donc là, il change le titre.
Voilà, il change le titre parce qu'il a le génie, il a le génie de la formule. C'est un homme qui a le génie de la publicité, de comment vendre des films. Et Benazera voulait que son film s'appelle « Du suif chez les dabes ».
Oui, bah c'est...
Donc, Château lui disait « Mais tu te rends pas compte, ce titre est complètement idiot, ça ne marchera pas. Quel est ton auteur préféré ?» Benazeref répond Camus, dit Caligula, Joe et Caligula, voilà le titre qu'il faut pour ton film. Et un autre coup extraordinaire, c'est avec la Warner. Il adore Bonnie and Clyde, mais la Warner n'avait pas envie d'une sortie forcément très spectaculaire. Et il a l'idée de montrer le film à Gainsbourg et de lui faire composer la chanson Bonnie and Clyde pour la sortie du film. Donc ça, c'est un coup de maître à nouveau. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans sa vie ? Bah, il y a la rencontre avec Belmondo. Là, on est dans cette période. Il commence à travailler avec lui avec le film O. Et là, il y a 18 ans de collaboration intense où ce goût pour le star system bat son plein, notamment. Il y a cette idée incroyable de faire de Belmondo presque une marque.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est avec le Flic ou Voyou que, pour la première fois sur une affiche, le nom de Belmondo apparaît. Parce que Château remarque à juste titre que Jean-Paul Belmondo, c'est trop long. Et il est nostalgique aussi de toutes ces années 30 et 40 où les acteurs s'appelaient Fernandel, Rému. Donc tout d'un coup, ça devient Belmondo. Et ça, c'est encore un coup d'éclat. C'est lui qui, à contre-courant de cette période, va rechercher des affichistes dessinateurs comme Machi ou Casaro en Italie pour faire des affiches éblouissantes. Donc ça, c'est vous voyez, on a du mal à le cerner parce qu'il y a plein de choses à raconter sur lui. Il y a aussi son activité d'exploitant de salle avec le Hollywood Boulevard qui se trouve donc près du musée Grévin. Et le Hollywood Boulevard, pour les cinéphiles de mauvais genre, c'est surtout deux choses. C'est d'abord la découverte, enfin... Oui, il découvre Bruce Lee. Bruce Lee, les films de Bruce Lee étaient sortis en catimini, enfin, étaient sortis comme d'autres films de karaté. Et puis, un jour, à Dakar, il voit Bruce Lee en salle. Et il voit comment le public réagit, et lui-même est subjugué par ce qu'il appelle être le Fred Astaire du cinéma de karaté. Et il rachète pas très cher les droits de ces films, et il en fait à nouveau une grande opération commerciale. Il y a, sans aucune autorisation, une énorme silhouette de Bruce Lee sur la façade de Hollywood Boulevard qu'il maintient pendant un an, ou même peut-être davantage, et il cartonne avec Bruce Lee. Et puis, il y a aussi les films de Blaxploitation qui vont être exploités. Là aussi, il se rend compte que ces films avec des castings noirs plaisent énormément dans les salles de quartiers populaires, et il décide d'en acheter plein, notamment les films de Jack Hill avec Pam Grier. Et à chaque fois, d'ailleurs, dans les titres, même quand le film se passe à Los Angeles, il met Harlem. Donc, Coffee, la panthère noire de Harlem, le samouraï noir. Enfin, il fallait toujours. C'était un homme comme ça qui vendait du rêve et qui donc trouvait parfois des formules, quitte à tordre un peu la réalité des choses.
Fausto ?
Oui, bah. Il y avait aussi cette idée, cette accroche absolument géniale des films que vous ne verrez pas à la télévision, qui a marqué effectivement tous les addicts de cinéma d'horreur. Et c'est vrai que à l'époque, quand on alors c'était très très cher d'acheter les VHS de René Château quand elles sortaient à la
1000 francs.
Voilà. Donc c'était réservé effectivement à un public fort argenté. Je vois Philippe que tu en faisais partie puisque en fait tu connais encore le prix par cœur. Mais je me rappelle, c'est René Château, c'est des souvenirs qui sont très personnels, mais c'est vrai que quand on allait dans les vidéoclubs et qu'on tombait sur ces VHS, sur cette accroche-là, on se disait mais comment cela se fait que ces films ne puissent pas passer à la télévision, quoi. Et il y avait cet art de la formule et aussi cette idée de transformer même un film comme Massacre à l'entronçonneuse, il en a quasiment fait une marque en réalité. Et c'est vrai que les gens, au bout d'un moment, ne dissociaient plus les films de leur éditeur. C'est-à-dire que Zombie de Georges Romero, qui a d'abord été édité par René Château, il était étroitement lié à René Château. Caligula aussi de Tinto Brass, oui. Massacre à la tronçonneuse, organiquement en fait, le nom de l'éditeur, distributeur et du metteur en scène et du film se liait. Et je pense que c'est un cas assez unique en fait dans l'histoire du cinéma.
Oui, donc il y a tout ce que vous avez dit. Alors, s'il faut mettre un petit bémol, mais qui est lié à cet enthousiasme, c'est qu'il était tellement un génie du commerce que, quand tu dis, Christophe, qu'il tordait un peu, il tordait aussi les montages. C'est-à-dire que les films de Bruce Lee, on les a vus effectivement à l'Hollywood Boulevard, mais dans des versions tronquées, parce qu'il coupait, non pas évidemment les scènes d'action, mais il coupait beaucoup dans les dialogues, parce qu'il trouvait que ça allait pas assez vite, et comme ça, il mettait, parce qu'il faut pas oublier que le charme de l'Hollywood Boulevard, c'était deux films au même programme.
Mais avait-il tort?
Et moi, je trouve qu'il avait tort, parce que un jour, ici, à mauvais genre, il faudra bien qu'on fasse une émission Bruce Lee, et on pourra comparer les versions. Et pareil dans ces éditions vidéo. Alors, son goût de l'acteur se retrouve dans le cinéma des années 30-50, où il y a des films extraordinaire, mais c'est vrai que maintenant qu'il a disparu, les droits de deux films qui nous sont chers, qui sont Le Deuxième Souffle de Melville et Les Fers Chauds, vont pouvoir peut-être être remis sur le marché et peut-être restaurés. Oublions pas que c'est l'homme qui a refusé la restauration de ses films au moment du coffret Melville. Mais voilà, je voudrais pas avoir l'air de cracher dans la soupe. Soyons reconnaissants des choses, mais rappelons quand même que voilà, avec cette idée que sur les jaquettes, les films tels qu'ils sont sortis à l'époque, c'est-à-dire que non restaurés. Hein, et attention à la publicité, les nouveaux monstres en VF ou en VO sous-titré, c'est les deux, et selon les sketchs, c'est la VO ou la VF.
Oui,
c'est... Alors parlons justement maintenant du cinéphile, collection Mémoire du cinéma.
Oui, la collection La Mémoire du cinéma, qui est surtout centrée sur le patrimoine du cinéma français, il ne demandait jamais de subvention. C'est un homme qui, ça aussi, c'est son goût de l'indépendance avec cette panthère noire qui symbolise la solitude, l'indépendance et la combativité. C'était aussi ça, René Château. Et ça allait jusqu'à faire les choses dans son coin, de façon artisanale aussi. C'était un homme de l'artisanat. pour ça ce goût avait pour les affichistes aussi. Donc l'artisanat, il a effectivement ses travers qui est de s'emparer d'un film pour peut-être parfois le remettre à sa façon. Bon, c'est vrai. Mais cette absence de subvention, je pense que René Chateau disait, imaginait que pour le prix d'une restauration, moi je sors 15 films. En fait, c'était un peu ça son idée. Et c'est pour ça que j'espère que ce catalogue qui, là, je vous ai apporté le dernier numéro de novembre de 2023, il y a plus de 600 titres. C'est extraordinaire. Et parmi les 600 titres, vous avez des films de Cousinet, bien sûr. Il y a des classiques. Il y a des films d'Autant Lara. Mais vous avez aussi Sur le plancher des vaches de Pierre-Jean Ducy. Bon. Et ma grande crainte, c'est que j'aimerais que ce catalogue subsiste à sa mort, parce que s'il est racheté par une grande boîte, j'imagine très mal que Sur le plancher des vaches sortira à nouveau. Là, dans la dernière salle de novembre, nous avons 14 films, parmi lesquels on a trouvé Une femme nue, qui est un film de Léo Johannon avec Saturnin Fabre. On a des films de ce genre-là. Et il y a alors copies restaurées, parce que de temps en temps, quand il récupère des copies restaurées. Par exemple, Le Comte de Monte Cristo, Robert Werner, qui a été restauré par les films Jacques Roitefeld, il en avait les droits. Il sort là deux magnifiques copies du Comte de Monte Cristo avec Jean Marais. Voilà, le dernier catalogue est sorti. C'est un festival du cinéma français. Et vous avez parfois aussi des DVD en solde à 5 euros les 10.
Et alors, ce qu'il faut préciser, et ça c'est vraiment à mettre à l'honneur de René Chateau, éditeur vidéo, c'est que ces titres, ils les sortaient, ils étaient toujours disponibles. Aujourd'hui, une mode est de dire on sort à 1000 exemplaires, et évidemment...
Tu l'as raté, quoi.
Et quand on l'a raté, c'est foutu. Alors que là, les premiers titres étaient toujours disponibles. On a pu les trouver en solde, et si on les a pas achetés en solde, ils reviennent de nouveau au prix fort. Et ça, c'est important, parce que la mémoire du cinéma français est maintenue. Et d'ailleurs, on voit bien que Patrick Brion, si on suit avec attention le cinéma de minuit, très souvent, les films commencent avec le logo de la Panthère.
Oui,
parce que c'est des films qu'il achète à René Chateau.
René Chateau, à lui, notre salut et notre gratitude pour avoir mis la puissance aviation au service de la cinéphilie de Jean. Je salue également la mémoire de Jean-Marie Borzex, qui fut pendant longues années un éminent directeur de France Culture et qui couva avec bienveillance les débuts de Mauvais Genre en 1992. L'émission s'appelait alors Bande à part. Et on sait ce qu'il en advint. Merci donc, Christophe Beer. Merci pour cet hommage à René Chateau. On passe à la première. Ça pourrait être d'ailleurs un catalogue René Chateau. Au premier film de ce soir, L'Inconnu de Chandigore de Jean-Louis Roy.
Arrête ! Arrête, je te dis !
Ce n'est rien. Faut vous écouter trop. Alors que c'est à vous de parler et à moi d'écouter.
Un ainsi de vampires, de reptiles, de scolopendres. Et on appelle ça des savants, des marchands. Oui, des marchands qui cherchent à polluer le puits de la vie.
Mademoiselle Sylvaine a vu les plans. Elle a compris.
Hors notre monde, elle n'est rien. Où voulez-vous qu'elle puisse exister ailleurs ? Bien sûr.
L'Inconnu de Chandigore de Jean-Louis Roy, Blu-ray chez Carlotta, Christophe Beer.
Oui, je me réjouis enfin que le film soit sorti. En plus, dans la version est restaurée 4K, elle est magnifique.
La photo est extraordinaire.
La photo de Roger Bainpage, directeur de photo suisse, venu de la télévision, photographe de formation, a fait un travail remarquable. C'est une photographie en noir et blanc et qui est extrêmement graphique. C'est vraiment prodigieux. C'est un film en fait qu'on qu'on cherchait à avoir depuis des années. Après, on a trouvé, il y avait des copies ont commencé à circuler. Le film a été vu en festival. Mais il a été en fait très longtemps oublié et même un peu méprisé. C'est un film un peu maudit. Pourquoi ? Parce que déjà, le film est suisse. Donc réalisé à partir de 1965. Le tournage s'étale sur plusieurs mois, de 65 à 66. C'est une grande nouveauté pour le cinéma suisse qui en fait à cette époque a plutôt l'habitude de fournir des documentaires, des films d'alpage, des Heimatfilme. Il y a l'influence du cinéma allemand aussi. C'est une cinématographie qui se développe difficilement et on va refuser la prime à la qualité pour L'Inconnu de Chandigorre, ce qui est quand même un comble. Et après, quand le film va passer au Festival de Cannes pour représenter la Suisse, les avis seront mitigés. Le film a été longtemps déconsidéré en Suisse et maintenant on est en train, heureusement, de le retrouver, de le redécouvrir. Il est réalisé par c'est le premier film de Jean-Louis Roy. Il a 27 ans à l'époque. Alors Jean-Louis Roy, c'est quelqu'un que l'on ne va cesser de redécouvrir maintenant. Il est mort en 2020. Il vient de toute cette équipe de jeunes cinéastes formés par la TSR, la télévision suisse romande. Il a débuté à 16 ans. En fait, il a commencé avec les débuts de la TSR en 1954. Il est cadreur, directeur de la photo, et il commence à faire des émissions de réalisation. Il y en a une notamment, Happy End, co-réalisée par Pierre Koralnik, autre expérimentateur de télévision, à la fois en France et en Suisse, qui fait un tabac. Et fort de cela, il veut prouver aux producteurs suisses que même si l'on est suisse, et encore plus en Suisse romande, on peut faire du grand cinéma, on peut faire un film d'action, d'aventure et d'espionnage. Et à l'époque, l'espionnage commence il y a eu les James Bond, et il y avait une formule qui résume bien le film, qui est du James Bond à la sauce Dürrenmatt. Hein. Ouais. Et effectivement,
Friedrich Dürrenmatt, grand écrivain suisse, notamment avec quelques chefs-d'œuvre de thrillers angoissants, de drames psychologiques, tout à fait extraordinaire.
Et il y a justement, Dürrenmatt écrit en 63 une pièce, Les physiciens, qui est...
De la vieille dame et les physiciens qui sont sur des médecins. Oui.
Et les physiciens montrent l'angoisse, la peur que peut susciter les progrès de la médecine, les progrès de la science. Et il y a ça dans L'Inconnu de Chandigorre, puisque, alors le résumé... On peut voir ce film comme un exercice de style, ce serait très réducteur, mais c'est vrai que le scénario se résume à quelques lignes. Un savant... incarné par Daniel Milfort que l'on vient d'entendre avec sa voix caractéristique, a trouvé une formule qui permet d'annuler toutes les forces nucléaires. Ça s'appelle l'annulateur.
Annulateur.
Et à partir de là, très sagement, ce savant, enfin très sagement, mais c'est quand même un savant fou, ce savant se retire du monde avec sa fille et un assistant, albinos.
Et sa voiture de handicapé, d'ailleurs.
Il est en fauteuil roulant, oui. Et donc, à partir de là, tous les espions, il y a des Russes, dirigés par un certain Shostakovich, qui est incarné par Jacques Dufilho. Il y a un groupe, alors je ne sais pas de quelle nationalité, mais ils sont chauves, alors qu'ils sont dirigés par Serge Gainsbourg. Il y a la CIA avec à la tête Howard Vernon, qui est un ancien de la Wehrmacht dans le film. Il y a aussi des Asiatiques du Soleil Noir, une sorte une entité qui s'appelle le Soleil Noir.
Triade, une secte.
Un peu quelque chose d'un peu mabusien. Donc tout ce petit monde va se focaliser sur l'annulateur, essayer de découvrir la formule de von Krantz. Donc il y a un côté aussi très bande dessinée et
c'est d'ailleurs dans la bande-annonce du cinéma oui, en bande dessinée, hommage à la bande dessinée.
Mais je crois que ce qui caractérise le film de Roy et qu'on trouvera après dans toute sa carrière de téléaste et dans son deuxième long-métrage Blackout, c'est un sens du baroque. Vous avez entendu, là, dans l'extrait de la bande-annonce, quand même, je les ai cités, mais les voix des comédiens et leur physique, ce sont c'est du baroque, c'est du Philo, c'est Gainsbourg, c'est Émile Forque, qui a là, pour la première fois, le rôle principal dans sa carrière. Il attendra pendant des lustres, il attendra la Cité des Enfants Perdus. Mmh. Il était cantonné jusqu'alors dans des petits rôles de gangster. Là, il s'empare véritablement du personnage et il en fait une création à part entière.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Bye, bye, Mr. Spy. Va-t'en retrouver Argus, prince aux 100 regards. Va au pays où se sont tus les silencieux. Fais preuve d'intelligence avec l'ennemi.
Mr. Spy, Serge Gainsbourg, un des moments saillants donc de la bande-son de l'Inconnu, de Chandigore, Philippe Rouillet.
À l'orgue alors, François.
À l'orgue, avec l'orgue électronique, l'orgue jazz, et cette sonorité absolument extraordinaire.
Alors, c'est marrant parce que Christophe rappelait tout à l'heure que le grand rôle suivant de Daniel Emile Fox serait dans la Cité des Enfants Perdus, et il a presque le même nom, hein. C'est Crank, hein, Kranz Crank. Et si on en reste sur la bande à Genet et Caro, c'est évident que le bunker de la dernière rafale vient de ce film. Toute l'esthétique vient de là. Les chauves, l'espionnage, parce que évidemment tout le charme de ce film, l'intrigue est très simple et c'est évident, elle tient pas dans le scénario. Elle tient évidemment dans le défilé de gueule, dans le rythme, dans la composition du cadre, dans l'amusement avec le genre. Il faut voir qu'en plus le film donc c'est le mi-temps des années 60 et c'est ce moment où dans le monde on a réellement peur de la bombe, c'est une sorte de version échevelée de Docteur Folamour, si vous voulez. Il y a ce côté-là. Et Roy, il est dans ce qu'on appelle le groupe des cinq, le fameux groupe des cinq, cinéaste suisse, donc très, 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 très sérieux, et qui est un peu l'équivalent suisse de la Nouvelle Vague. Alors, le film
avec
est divers.
Qui avec qui
Il y a Goretta,
Souter,
Tanner. C'est lui qu'on a le moins suivi après. Oui. C'est lui qui a, parce qu'il a fait beaucoup de sa carrière à la télévision. Ouais. Et c'est vraiment une grande chance d'avoir ce film. Je veux dire, cette émission qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour réhabiliter des éditeurs vidéo qui ont le courage d'éditer autre chose que des films soit très récents, soit avec des vedettes, que ce soit des metteurs en scène qu'on aime tous ou des acteurs. Et ça, c'est quand même un geste extraordinaire de se retrouver avec ces films-là. En Suisse, on aime beaucoup de films. Freddy Buage, qui était à l'époque conservateur de la Cinémathèque suisse, a vraiment pris fait et acte pour ce cinéaste et pour ce film-là. Il faut vraiment en réévaluer l'importance dans l'histoire du cinéma.
Alors, ce qui est également très intéressant, c'est qu'il y a un bonus passionnant, qui est une émission de télévision entièrement consacrée à Jean-Louis Roy et au film, où il a le temps, parce que ça dure presque plus d'une demi-heure, d'expliquer son intention, son projet, d'analyser de manière précise son film. Alors, il tient des propos étonnants. Il dit notamment, c'est un film qui est entièrement tissu de banalité. C'est un film qui est fait entièrement avec des lieux communs. C'est-à-dire qu'il a pris effectivement les gimmicks et les topoïs, comme on dit, partie de tous les films d'espionnage et films d'aventure qu'il a rassemblé dans un scénario, et il en a fait une sorte d'objet, et c'est vrai que c'est un film aux confins de tous les films. On pense aussi bien aux Barbouzes, qu'à Docteur Folamour, qu'à James Bond, qu'à tous ces espèces de films d'espionnage futuriste, vaguement sexy, de l'époque. Donc effectivement, c'est une sorte de réflexion esthétique un peu distanciée sur l'actualité du cinéma de genre et du cinéma d'espionnage. Fausto Fazulo.
Oui, bah c'est exactement ça. C'est une synthèse subjective. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a une interview, une rencontre qui avait été filmée à la Cinémathèque suisse, un petit peu avant sa mort, je crois, quand le film venait juste d'être restauré. Et donc Jean-Louis Roy était venu. C'était assez émouvant. On le sentait très... Oui, très ému à l'idée de présenter son film en Suisse. Puis il racontait aussi les problèmes de financement et le fait qu'à l'époque, cinéma suisse et cinéma de genre n'étaient pas forcément considérés de manière évidente, on va dire. Et pour abonder en votre sens, François, moi ce qui m'a interpellé, puisque le film est souvent qualifié comme ça de pastiche, il a dit juste avant de lancer le film, donc en fait on les voit tous discuter, il dit « je voudrais juste préciser quelque chose ». Donc Jean-Louis Roy, oui, mon film n'est absolument pas un pastiche. Je me suis simplement réemparé des topics du cinéma d'espionnage et je les ai fait miens, mais ce n'est absolument pas une parodie. Et effectivement, quand on lit le résumé ou quand on tombe sur l'affiche comme ça, on pourrait se dire « Ah tiens, encore une énième parodie de film d'espionnage », mais en fait, le film est beaucoup plus que ça. Il y a une recherche à la fois dans le fond et dans la forme qui est éminemment personnelle et qui fait de ce film-là autre chose qu'un énième film de spy-exploitation.
Oui, d'ailleurs, il faudrait... espérer aussi voir le Blackout qu'il a réalisé tourné en 69, sorti en 70, est un film en couleur, mais quand on voit le thème, c'est encore l'angoisse atomique avec un couple de vieilles personnes qui, persuadées que la Troisième Guerre mondiale est proche, va s'enfermer dans leur pavillon et le remplir de nourriture. Alors, comme le film est en couleur, vous voyez des boîtes d'étiquettes, alors ça fait très pop. Là, on a une version pop de cette même angoisse qui est déjà au cœur de l'inconnu de Chandigore. Donc, c'est un sujet qui intéressait beaucoup Jean-Louis Roy. Donc, je pense que, oui, l'inconnu de Chandigore n'est pas un exercice de style. C'est un geste beaucoup plus sincère et certainement... plus angoissant, plus trouble. Et j'avais rencontré Jean-Louis Roy pour un documentaire sur Émile Forck. Il m'avait parlé de l'apport du comédien. Et c'est un apport qui à l'écran, se voit aussi par les dialogues. Et Jean-Louis Roy, à 27 ans, a fait le pari, on lui avait dit, Émile Forck est une diva. Bien du courage, nous te souhaitons. Émile Forck lui a dit, je vais écrire mes dialogues, parce qu'il lui dit d'abord... Von Krantz, c'est moi. Bon, il dit très bien, mais il y a des dialogues, je ne peux pas les dire. Il a laissé Émile Forck écrire lui-même certains dialogues qui sont très, très curieux. Quand il dit à son assistant, vous n'avez pas l'impression que la formule de l'annulateur me ressemble ? Des choses comme ça. Donc, il y a ce goût aussi chez le roi d'aller au-delà des apparences ou des visages, et donc peut-être au-delà des poncifs qu'il manipule. Et avec cet acteur comme Émile Forck, qui avait été tellement marqué par des rôles d'espion, même Rob Grier lui disait « Vous avez une tête d'espion ».
Il y a un petit côté nouveau roman aussi,
dans la colline de Chandigore. Émile Forck avait dit à Rob Grier « Quand vos ancêtres grimpaient aux arbres, les miens lisaient le Talmud ». Silence général, ça a fait le tour de Paris. Bon. Et donc, je crois que Roy, également le Roy téléaste qu'il faudra bien un jour redécouvrir, mais la TSR fait un travail comme ici en France le fait l'INA, il faisait des portraits de gens insolites, étranges, et il a peut-être fait un portrait d'Émile Forck à travers ce film. Il s'est servi de toutes les failles, et il me le disait lui-même, et Émile Forck a apporté énormément de lui dans le film.
L'inconnu de Chandigore de Jean-Louis Roy, somptueuse édition en Blu-ray chez Carlotta. On passe au second film de ce soir, Massacre pour une orgie, de Jean-Pierre Bastide, et c'est au Chat qui fume.
Ah, c'est le film dément.
Ce qui m'a frappé le plus dans les autres films, c'est simple. C'est de répéter 20 ou 30 fois pour des conneries monumentales que l'on coupe au montage et que dans ce film, je précise, je tiens à le dire, On ne répétait pas, on tournait, la première prise sans répétition était bonne. Vous l'avez vu, la fille. Tout le monde l'a vu. Je n'en dis pas plus. J'insiste sur ce sujet. Massacre pour une orgie, il faut le voir.
Massacre pour une orgie a quand même eu un prix. Le prix Byzance 66, créé pour ce film par Christiane Rochefort et Pierre Klossowski. Un prix et une fête.
Debout, 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 mesdemoiselles, debout les maillots de bain. Debout, entourant le vainqueur, le grand vainqueur.
Où les gros dards, là ?
Gros dards !
Gros dards !
Gros dards !
Gros dards !
Monsieur Grodard, approchez-vous
devant. Grodard, alors le prix Byzance avec Pierre Klossowski. Alors j'aimerais vraiment savoir, il faudrait demander aux spécialistes, biographes et autres exégètes de Klossowski, ce que ce digne ami de Georges Bataille, de Maurice Blanchot, traducteur de Virgile, de Nietzsche et de Heidegger, est allé faire en remettant le prix Byzance à Massacre pour une orgie.
Et en l'inventant, François.
Et en l'inventant.
Et alors, à ma connaissance, à et d'après mes recherches, c'est l'unique prix Byzance qui a été remis à Cannes.
Vous m'étonnez.
Je veux dire, dans positif, évoquant le Festival de Cannes, on évoque ce, y a un beau cahier photo de Massacre pour une orgie, mais on en reparlera plus tard et on n'en a plus jamais reparlé.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la promo sauvage du film, effectuée à Cannes pendant le festival par l'équipe qui a mis en scène véritablement
qui a mis en scène sur les marches une intrigue qui pourrait être un spin-off du film, c'est-à-dire un règlement de compte. Ou et alors, il faut dire à nos auditeurs qui seraient pas au courant, parce que c'est, je veux dire, tout ça, on parle quand même de choses assez rares. Hein.
Oui.
Et donc, s'ils ne saisissent pas le lien entre Massacre pour une orgie de Jean-Pierre Bastide et puis ces gens qui crient Grodard, 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 c'est parce que
il a pris
comme pseudonyme. Et non pas par moquerie, mais par admiration pour Godard, et notamment le Godard de Pierrot le Fou, parce que là, le film est de 66, donc c'est vraiment un an après Pierrot le Fou, Jean-Loup Godard. Donc le film Massacre pour une orgie est signé Jean-Loup Godard, et il y a, quand on épluche le générique, il y a beaucoup comme ça de pseudonymes. Le monteur Claude Isner, qui est déjà un pseudonyme, mais excusez-moi, en 66, Claude Isner, c'est déjà le monteur de Chris Marker, de Piala, et qui se retrouve là sous le nom de Lulu Brick.
Ah oui.
Donc, vous voyez ce genre de...
On va faire pareil, les mauvais genres, messieurs, vous allez perdre vos noms, on va vous trouver des petits noms.
On compte sur toi, François, pour nous en donner.
Hein. Et les auditeurs essayeront de reconnaître nos voix, c'est ça le jeu, François. Et donc, alors, ce Jean-Pierre Bastide, c'est un fou de cinéma qui va faire l'IDEC, qui se passionne, qui fait une thèse sur Nicolas Ray, et qui lui envoie comme ça via la Warner à Nicolas Ray, Warner, et ce qui est extraordinaire
chez Warner.
Voilà, non seulement est non traduite, il explique, hein, parce qu'il y a un très très bel entretien avec lui en
oui,
bonus
magnifique.
Du chat qui fume, et il dit, ben non seulement c'est pas traduit, mais il m'a répondu très très longuement, il m'a appelé au téléphone et il est devenu son assistant. Comme demain, il a été l'assistant de Jean Cocteau. Il raconte c'est la folle équipée d'être assistant de Jean Cocteau. Bon, et donc on sent cet amour du cinéma. Et après, c'est beaucoup plus compliqué de passer soi-même à la réalisation. Il écrit un polar sexy, il nous dit, qui est assez loin de l'intrigue de Massacre pour une orgie, et qui finalement va pas se faire, mais un producteur lui donne les rushs d'un film inachevé.
Voilà, donc point de départ, les rushs et les fragments d'un film
qu'ils appellent les trafiquants d'envers.
Voilà.
Les trafiquants d'envers, et donc ils regardent ça. Alors,
des rushs à partir desquels on ne peut reconstruire aucune histoire.
Voilà, non, parce que c'est vraiment...
Constitue aucun récit.
C'est vraiment des rushs, et le réalisateur étant mort, film étant sinistre, et donc on a les rushs, et faites-en ce que vous voulez. Et donc il va récupérer des choses qui lui plaisent, une bagarre sur la plage parce que c'est en plan séquence, l'arrivée de la police en jeep parce qu'il y a
une jeep.
Oui, alors et donc ça vous donne une idée de ce qu'est le film qui est très compliqué à suivre. Dans le livre de notre ami Christophe Beer, ici présent, qui est le dictionnaire des œuvres érotiques et pornographiques, il y a un long article sur Massacre pour une orgie, et l'auteur qualifie le film de pierre de rosette du cinéma de sexploitation.
Eh ben.
Ouais, parce que voilà, il y a un côté assez mystérieux quand on voit le film. Alors, l'intrigue, c'est la police qui va enquêter à la suite de meurtres sur un réseau de trafiquants de drogue, mais qui est en fait lié à des trafiquants de jeunes femmes. C'est la traite des blanches et le trafic de la drogue. Avec, évidemment, on fait les deux parce que quand on capture les filles, on les drogue avant de les vendre. Alors, le film est assez étonnant parce que on est avec les truands et puis, dans une dernière partie, on va basculer du côté de la police par une espèce de numéro de passe-passe, mais ça fait aussi partie du film. Là encore, c'est pas une parodie. Il faut bien comprendre que c'est à la fois un film qui reprend tous les éléments de langage du polar et du polar sexy. Ouais. Il faut bien comprendre que Bastide, qui a été l'assistant de Benazeraf, de Max Pécasse, mais Max Pécasse, rappelons à nos auditeurs, Max Pécasse, période belle, riche et blondée. Hein, c'est plutôt voilà. L'enfer du désir, la plage du désir, des films comme ça, le cri de la chair. Et donc on a tous ces éléments de polar sexy et en même temps une espèce de rage politique.
Hein, voilà, ça c'est très important.
C'est ça qui est très très important et c'est aussi pour ça qu'il revendique le nom de Godard. On est en 66 et il y a un certain nombre d'idées qui couvent et ce qui donne au film un mélange à la fois de sexploitation de cinéma de genre et en même temps de films j'allais dire intellectuels, de films politiques. Il faut pas oublier que ce Jean-Pierre Bastide va être le co-scénariste de Boisset sur Dupont-la-Joie, voilà, oui, et sur l'attentat, c'est-à-dire sur des œuvres très politiquement engagé.
Et donc, c'est vrai qu'il y a une dimension politique essentielle. C'est quelqu'un qui militera pour l'Algérie algérienne, d'une part. C'est quelqu'un qui est donc un ami de Manchette avec qui il fera les sons bronzer les cadavres dont on a eu récemment une deuxième mouture. Et puis, il est aussi proche des milieux situationnistes. Donc, on a vraiment là un geste qui n'est pas un geste rigolo-parodique. C'est un geste politique, un peu de réflexion sur justement tout ce qui est la violence, l'État, le corps, tout ce qu'on veut, les thèmes des années 60 qui exploseront après 68.
Parce que c'est aussi un maître de la série noire écrite. Hein, ouais. Il a une soixantaine de
absolument
une soixantaine de polars à son actif.
C'est Engrenage également. Fausto,
je tiens à saluer la programmation de cette émission, François, puisque je trouve que le film en fait répond parfaitement à celui de Roy.
Ah bah
en fait,
exactement.
Oui. C'est assez intéressant
tout
parce
est
que
sous contrôle.
Ah non. Mais alors je dis pas ça pour une augmentation évidemment, mais
mais si elle est là, on la prendra tous volontiers.
Non, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait dans les deux cas, on a affaire à des personnes qui connaissent profondément en fait le genre qu'elles vont illustrer, mais qui refusent en fait de l'illustrer de manière un petit peu automatique quoi. Et le côté millefeuille de Massacre pour une orgie, effectivement, est assez passionnant. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, moi, je trouve que le film est une sorte de collage en fait. Ouais. On est entre le collage et l'impressionnisme, sauf que au-delà de d'une recherche effectivement sur la forme, puisque quand on compose et qu'on mélange comme ça des images différentes, on peut avoir une recherche uniquement formelle. Il y a une démarche qui est effectivement intellectuelle, politique et surtout anarchiste, je trouve. Et en cela, le film répond parfaitement aux intentions de Roy, quoi.
Monsieur Beer.
Oui, il y a aussi tout ce défilé de gueules. Qui, notamment la police. Donc là, il y a toujours ce geste politique de rendre une image de la police assez grotesque et parfois même inquiétante. Il y a une armoire à glace stupéfiante. J'avais demandé à Jean-Pierre Bastide son nom, mais il s'en souvenait plus. Le commissaire de police est incroyable. C'est un figurant, quelqu'un qui a été figurant toute sa vie et qui tient son rôle,
son
le rôle
gloire
de sa vie. Le commissaire de police incarné par Gaston Meunier. Mais le collage, il est aussi dans cette interprétation. On n'arrive pas à savoir ce que Bastide a tourné véritablement. Il semble d'ailleurs qu'il a rappelé certains acteurs des trafiquants d'Anvers, notamment cet acteur hallucinant qui est doublé par Robert Dalban, José Diaz, qui était un ferrailleur et qui voulait faire du cinéma. Et donc, il avait déjà peut-être financé ces trafiquants d'Anvers. Et Bastide le rappelle pour jouer ce chef de gang habillé en marin. C'est un personnage tout à fait surprenant. Donc il y a cet aspect-là qui est là aussi, c'est vrai, il y a un rapport avec Jean-Louis Roy, ce goût des gueules,
le cinéma de gueules, quoi.
Un certain baroque. La différence, c'est dans l'érotisme. Là, il y a quelque chose qui est peut-être là une demande aussi du producteur, qui est interviewé aussi dans un des producteurs est interviewé dans les bonus du Chat qui fume, Gilbert Wallmark. Et le côté anarchiste, il est aussi dans une vision libertaire de l'amour. Donc ça, c'est quelque chose d'inhabituel dans le côté polar sexy, qui est parfois assez, disons, rétrograde.
Et d'ailleurs, on passe du BDSM au début à des choses plus différentes.
Relations à trois.
Oui, plus libertaire. Alors, ce qui est marrant, c'est que, évidemment, sentant venir le vent, c'est-à-dire qu'évidemment, en 66, il faut une autorisation de tournage en France. Hein, la censure, il y a une pré-autorisation. Donc, il fait le film au Luxembourg. Comme ça, il n'y a pas besoin de... On contourne.
C'est bien le Luxembourg pour le cinéma.
C'est très bien le cinéma.
Le film est tourné à Paris. Hein,
la production est luxembourgeoise et donc elle échappe. Sauf que pour les... Évidemment, le film n'a pas son visa et le film est saisi au laboratoire. Alors, par chance, c'est toujours pareil avec ces films saisis, il y a toujours des copies à droite, à gauche, et il explique dans le bonus qu'il avait mis. Et alors, du coup, le film va être acheté. Le film ne va pas pouvoir être diffusé, puisque le film est interdit, mais il va être acheté par un Américain, un distributeur américain qui s'appelle Bob Kress, qui va l'acheter. Mais alors, évidemment, les normes américaines ne sont pas là. Il coupe les passages sexy et il change certains dialogues. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette édition vraiment somptueuse du Chat qui fume, on a le montage américain. On a le montage américain d'1h15. Bon, en qualité VHS, hein, c'est vraiment très... on voit ce que c'est qu'une restauration, hein, par comparaison, quand on voit les mêmes plans. Et on a aussi des rushs non utilisés, des trafiquants d'envers. Et on comprend mieux, notamment, là, il y a toute une scène de fête avec des filles sur une péniche aux deux tiers du film, et on comprend mieux, ça vient d'une sorte de bal masqué, parce qu'on ne comprend pas pourquoi non seulement elles viennent, mais plutôt en Sherazade. C'est vraiment une édition très très importante qui nous permet d'avoir chez nous un film comme moi c'est un film que j'ai longtemps cru invisible, disparu et qu'on ne verrait jamais avant qu'il ressurgisse, qu'il passe à Hallucination Collective et à l'Étrange Festival et maintenant chez nous avec le Chat qui fume.
Une dernière la commission de contrôle en 1966 voyant le film, un des suppléants écrit: le film est à interdire totalement et le réalisateur est à interner. Machino Akari wa tsure nakaro Haha no chibusa ga koishi karo Hitori bocchi no nora inu yo Makete shimaeba oshimai sa. Konna 悲しい世の中をハスに歩くもおつなもの.
Voilà, alors Paul Ray, Fausto souhaitait que vous traduisiez la chanson.
Il n'y a aucun problème, je vais vous la sous-titrer immédiatement, sauf que vu que nous sommes à la radio, vous n'allez pas pouvoir voir ce que j'écris.
Donc,
chanson interprétée par Miki Sugimoto, qui est donc l'actrice principale des Menottes Rouges de Yukio Noda.
Qui a tous les talents.
Qui a tous les talents.
Les Menottes Rouges.
Vaste programme.
Alors, on était dans le noir et blanc somptueux, comme on dit.
Ouais.
Nous voilà maintenant dans la couleur pop et somptueuse aussi, mais...
Film coloré, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc un film réalisé par Yukio Noda de 1974. Alors pour un petit peu recontextualiser l'époque politique, puisque c'est assez intéressant de voir comment le film fait écho justement à tout ce que traverse la société japonaise à ce moment-là. Donc en 74, nous sommes 4 ans après le suicide rituel de Yukio Mishima. Nous sommes 2 ans après la prise d'otage du chalet Asama donc par l'armée rouge unifiée. Et nous sommes tout juste 1 an après le premier choc pétrolier qui a donc ébranlé le monde et le Japon aussi qui a connu une grave crise. Donc c'est dans ces conditions-là que le film se fait. Et même si ce sont effectivement des petites productions tournées rapidement, le contenu, la dimension politique se ressent aussi dans les décors, dans les personnages et dans tout ce que le réalisateur va infuser de messages, mais de manière extrêmement souterraine. Le scénario, il est très rapidement résumé. On suit une jeune policière de la brigade Zéro, qui, en fait, suite à l'assassinat d'un diplomate, ou plutôt une vengeance, en fait, elle se venge d'un diplomate étranger qui aurait assassiné une de ses amies, finit en prison. Elle va très vite sortir de prison, puisque la fille du futur premier ministre japonais vient juste d'être enlevée, et on va lui demander simplement d'aller la chercher et d'éliminer tous ses ravisseurs. Donc on part, en fait, d'une idée qui tient littéralement sur un ticket de métro pour développer ça, déployer ça de manière totalement hyperbolique. Je crois que le terme hyperbolique convient parfaitement au film. Une note aussi assez importante, le film s'inspire d'un manga de Toru Shinohara qui n'est autre que l'auteur du manga La Femme Scorpion. Donc si vous aimez La Femme Scorpion, si vous connaissez un petit peu cette saga animée notamment par Meiko Kaji, vous allez forcément vous sentir dans vos pantoufles devant les menottes rouges. Et même cette chanson que Laurent vient tout juste de lancer.
Je suis en train de traduire, voilà, avec un dictionnaire japonais.
Exactement, rappelle la chanson titre, effectivement, Uramibushi de La Femme Scorpion, interprétée aussi par Meiko Kaji. Alors, un petit mot sur Yukio Noda, qui était un grand artisan du cinéma d'action japonais. Là, il officiait, en l'occurrence, pour la Toei. C'est quelqu'un, moi j'aime bien comme ça, essayer de créer des rapports, notamment quand on connaît assez peu le cinéma japonais, ça peut faire sens aussi parfois de renvoyer à des références un peu européennes. Moi, c'est quelqu'un que je rapprocherais en fait d'un Umberto Lenzi. Par ailleurs, Les Menottes Rouges me fait penser aussi dans son esprit et dans son énergie à un film comme La Rançon de la Peur. Et donc, il a fait ce film pour la Toei. Il faut savoir qu'à l'époque, les studios japonais en fait réfléchissaient énormément à des façons d'attirer en fait le public en salle, puisque la télévision en fait était très très concurrente. Et donc, il fallait trouver des formules, il fallait trouver des high concepts. Comme il le disait, c'était le terme en vigueur, le high concept. Et tous les studios ont réfléchi. Alors, il y a eu les fameux romans porno de la Nikatsu qui ont permis à la Nikatsu de se renflouer au moment où elle était au plus bas financièrement. Et la Toei, elle va capitaliser sur les films d'action. Et avec Les Menottes Rouges, elle va capitaliser sur un nouveau genre qu'elle va littéralement inventer, en regardant aussi du côté de ses petits camarades pour voir ce qu'ils faisaient. Elle a créé un sous-genre qui s'appelle Pinky Violence, en fait, qui est littéralement un mélange entre l'érotisme et l'action, dont Les Menottes Rouges est effectivement l'un des titres les plus emblématiques. Tous ces films en fait donc reposent à chaque fois sur des scénarios qui sont globalement éculés, avec des archétypes. Leur intérêt, c'est selon moi la grande exigence formelle. On a chez tous ces cinéastes japonais des années 70 une sorte de conscience professionnelle qui est la conscience professionnelle des réalisateurs de studio. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient le matin, il y avait une sorte de mentalité quasiment de salaryman, et il fallait à la fin de la journée que le travail soit correctement fait. Et le travail correctement fait pour un metteur en scène, c'est de mettre en boîte des plans qui sont beaux et de les mettre en boîte rapidement. Et ce côté rapide, on le ressent dans le film. On le ressent pour deux raisons. On le ressent parce que déjà, le rythme l'impose, et on le ressent aussi parce que c'était déjà l'une des recettes du mangaka, Toru Shinohara, qui qualifiait son style en disant « Moi, je suis la règle des 3 S. » Alors, les termes vont être en anglais, même s'il était japonais. « Sexy, suspense et speed. » Et cette règle des 3 S, on voit bien que Yukio Noda l'applique parfaitement. Et moi, ce que je trouve aussi toujours fascinant chez ces films-là, c'est de voir ce que je disais un petit peu en préambule, à quel point il raconte la société japonaise sous le vernis d'un genre un petit peu sale. Les méchants, par exemple, du film, c'est assez intéressant. Donc, on suit un personnage au début qui sort de prison et qui fait partie du groupe de ravisseurs. On le voit, il sort, il a une veste militaire avec écrit US Army. Effectivement, ça pourrait être simplement un détail de son costume. Or, on voit bien que l'Amérique, les États-Unis, et notamment les États-Unis de ces années-là, c'est-à-dire l'après-guerre, l'après-choc pétrolier, en fait, eh bien, il y a une volonté volonté chez Yukio Noda de raconter quelque chose dans le rapport du Japon aux États-Unis. Et alors, ça va être un peu compliqué pour moi de pas trop spoiler, mais la dernière partie du film, les 30 dernières minutes même, en fait, puisque le film se découpe en trois parties qui sont assez égales en termes de temps, la dernière partie du film se passe dans une ancienne résidence américaine proche d'une base, en fait, qui est littéralement devenue une sorte de ville fantôme semi-westernienne, une sorte de zone de non-droit sur laquelle les personnages, en fait, vont littéralement s'entretuer. Et là aussi, on a comme une sorte d'immunité diplomatique dans le meurtre, c'est-à-dire que les personnages, en fait, peuvent agir comme ils le sentent, simplement parce qu'ils sont sur une zone de non-droit qui, auparavant, était occupée par les Américains. Et c'est vrai que le long-métrage est traversé comme ça. Le look des méchants, comme je le disais, en fait, c'est un look qu'on pourrait qualifier de Yankee. Enfin, en tout cas, c'était le terme qui était utilisé à l'époque, c'est-à-dire avec des vestes en jean, avec des vestes militaires. Et le fait de les voir agir de la sorte, effectivement, ça dit quelque chose. Pour autant, le film n'est pas d'un anti-américanisme primaire. Puisque, voilà, ça va être difficile de ne pas raconter la fin, mais concernant justement les sombres intentions qui animent les gens de pouvoir, là aussi, Yukio Noda n'y a pas avec le dos de la cuillère. Et le fameux Premier ministre qui essaye de sauver sa fille, on va se rendre compte qu'à la fin, en fait, c'est autre chose qu'il veut faire.
Oui, Fausto parlait de Umberto Lenzi, et moi, ça m'a aussi frappé, mais même au-delà, j'irais, c'est le Polizio Tesco, j'ai pensé, moi, à Fernando Di Leo, Il Boss, où il y a une intrigue similaire avec la fille d'un puissant qui est kidnappé, qui est violé, et qui, du coup, devient presque nymphomane. Il y a une dimension sexuelle très, 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 très forte, et qui, à chaque fois, est liée à la violence et au mal. C'est-à-dire que la première chose que fait le type en sortant de prison, là, avec sa veste US Army, c'est un viol et un meurtre. Et c'est vraiment un viol en réunion, enfin, c'est vraiment abominable. Et donc, on pousse tout de suite très haut le curseur. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est évidemment le côté pop, l'ouverture, la plongée sur la fille, sur la piste de danse, et on ne sait pas qui est ce personnage. Moi, je connaissais rien du film avant de le regarder, et on croit que ça va être une victime, alors qu'en fait c'est une femme flic. Et ce qui est extraordinaire, c'est que elle va pas hésiter à être déshabillée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce genre de production où il y aurait les héroïnes et puis les filles à côté qu'on déshabille et qui servent... Non, je veux dire, le sexe devient à ce moment-là un élément du récit et embrasé dans la dimension pop et ultra-violente du film. C'est vraiment une curiosité très passionnante.
Christophe Beer, confirmation.
Je ne l'ai pas revu depuis des lustres, mais je...
Il est au chat qui fume, Christophe.
Oui, mais je ne l'ai pas. Je vais me le procurer. Je me souviens surtout de l'aspect pop du film, de toutes ces couleurs qui étaient vraiment, qui éclataient à... Donc oui, c'est vrai que ça fait penser au cinéma italien, mais je ne peux pas vous en dire davantage.
Parce qu'elle a des menottes rouges, c'est-à-dire que le titre n'est pas un titre métaphorique. Elle a des menottes
qui
rouges.
Qui lui servent d'armes.
Qui sont presque magiques, parce qu'elles sont drôlement épatantes.
C'est un peu des menottes frondes, et effectivement, qui peuvent, on va dire, défier les lois de la gravité et venir s'encastrer sur des ennemis.
Y compris des gorges. C'est pas simplement, on ne menotte pas que des bras. Donc elles sont vraiment à dimension variable, ces menottes.
Alors, trois films, donc L'inconnu de Chandigore, Massacre pour une orgie et Les menottes rouges, qui en définitive consonnent par le fait même qu'ils utilisent la rhétorique, la thématique, la richesse formelle, la poésie du cinéma de genre, le thriller, le film policier, le film d'espionnage, le film sexy, pour essayer de constituer d'abord une réflexion formelle sur ces films et en même temps un geste politique, puisque tout ce qui a été dit montre bien que les réalisateurs avaient dans l'idée autre chose que de gagner 4 sous ou de se distraire, véritablement d'accomplir une sorte d'acte comme ça, qui est pas un acte terroriste, mais qui relèverait plutôt de l'action directe artistique. Je rappelle les titres. L'inconnu de Chandigore, c'est chez Carlotta. Massacre pour une orgie et Les menottes rouges, c'est aux éditions Le Chat qui fume. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laura Polleret, Daïl Yaha, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Beer et François Angelier, vous remercie d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, une émission peu commune, puisque en compagnie d'Esther Teillard et de Christophe Beer, nous interviewerons le grand Stu Miden, des icônes de l'illustration et de la peinture Mauvais Genre.